Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Couvre-feu avancé, réouverture des cinémas et théâtres repoussés, déplacements limités. Jean Castex doit trancher ce soir et dire si le déconfinement aura lieu comme prévu mardi prochain ou si la situation sanitaire exige le maintien des restrictions à 15 jours de Noël. Casse-tête en vue pour le Premier ministre, vous l'entendrez. Nous irons ensuite à Bruxelles où les discussions pour mieux encadrer le Brexit vont encore durer 4 jours. Date limite ce dimanche, c'est en tout cas ce que promet la Commission et le gouvernement britannique. Pendant ce temps, les 27 de l'Union se penchent toujours sur leur plan de relance face à la crise du Covid. Budapest et Varsovie sont d'accord pour lever leur veto à propos de ce plan de relance. Les négociations pourraient donc s'engager sur des mesures écologistes de ce plan. Dans ce journal enfin, notre correspondant en Inde nous racontera comment les nationalistes hindous veulent empêcher les mariages interreligieux. La police, forte d'un nouveau décret, devient violente. Le confinement va-t-il être un peu plus assoupli mardi prochain, 15 décembre, comme Emmanuel Macron l'avait avancé? Réponse a priori ce soir, 18h, avec une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Le président de la République avait donné comme condition à ce déconfinement d'arriver à moins de 5000 contaminations par jour dans le pays. On en est loin, plus de 14000 hier encore. Matignon indiquait que rien n'était encore tranché et c'est effectivement un Castex. Castex reconnaît Chloé Morin, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion publique. Elle était aussi conseillère en charge de l'opinion publique au sein des cabinets des premiers ministres Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls de 2012 à 2016.
On voit bien qu'il y a une préoccupation constante de l'exécutif, surtout depuis la rentrée de septembre, de tenir compte de ce qu'on appelle l'acceptabilité des mesures par l'opinion. Ils cherchent sans cesse le bon dosage, justement pour essayer d'éviter que la colère ne monte à l'encontre des mesures qui sont prises. On sent qu'ils sont sur un équilibre assez précaire. Du coup, le gouvernement se trouve dans la position où non seulement il doit faire son autocritique, puisque vraisemblablement les règles qu'il a instaurées ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'il souhaitait, et par ailleurs, ménager une opinion publique dont on sait qu'elle a Noël et les fêtes de fin d'année en ligne de mire et que ça serait très difficile d'annoncer aujourd'hui aux familles que non, on ne pourra pas voyager pour passer Noël avec ses parents ou que sais-je encore.
C'était la spécialiste de l'opinion publique Chloé Morin, interrogée pour France Culture par Rosalie Lafarge. Je précise que le gouvernement demande aux pharmaciens d'anticiper quand même la forte demande en tests prévue à Noël. Les officines devront disposer à partir du 14 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, d'un stock important de tests antigéniques. Ce sont des tests rapides, mais moins fiables que les tests PCR. Et si en France, le nombre de patients à l'hôpital baisse tout de même, ce chiffre, en revanche, est exponentiel aux États-Unis en ce moment. 3000 morts en 24 heures, plus de 220 000 infections et des hôpitaux surchargés. Les autorités sanitaires américaines s'attendaient à cette flambée après les déplacements de millions d'Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 2 semaines, et ce, malgré les appels à rester chez soi. La fin d'année approche donc, les craintes pour certains des fêtes en famille, et la crainte aussi d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous sommes à 3 semaines d'un Brexit effectif. Hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont décidé de se donner une nouvelle fois quelques jours pour négocier. Mais c'est sans enthousiasme, Angélique Bouin.
Il se laisse encore 4 jours pour trancher. Nous avons eu une discussion animée et intéressante, indique la présidente de la Commission, mais les positions restent très éloignées. Les négociateurs des deux camps, Michel Barnier et David Frost, sont donc invités à rediscuter. Mais une décision sera prise d'ici dimanche, précise Ursula von der Leyen. C'est la date limite pour permettre aux eurodéputés d'étudier puis de ratifier un éventuel accord avant début janvier. À Londres, même tonalité, un très grand écart subsiste. On ne sait pas comment le combler. Là aussi, on ne jette pas l'éponge. Le Premier ministre veut être sûr d'avoir exploré toutes les pistes, indique un porte-parole. Jamais la perspective d'un échec n'a été aussi proche. La Commission devrait présenter dans la journée une première batterie de mesures d'urgence pour les secteurs économiques les plus menacés. Mais l'absence d'un accord sur la relation future entre les deux ex-partenaires, ce ne sera pas non plus le saut dans l'inconnu que l'on redoutait tant l'an dernier, tempère un diplomate. Et cela grâce à l'accord de retrait qui organise dans bien des domaines une sortie ordonnée.
Angélique Bouin depuis Bruxelles. Bruxelles où se retrouvent aujourd'hui et demain les dirigeants européens, en présentiel cette fois. Un sommet présenté comme crucial, d'autant que les Hongrois et les Polonais seraient prêts à lever leur veto sur le budget du plan de relance européen. Ce compromis a été négocié avec l'Allemagne et il faut encore que les autres chefs d'État et de gouvernement le valident aujourd'hui et demain. Lorsque cette question sera tranchée pour le budget du plan de relance, les 27 pourront alors aborder la question climatique. L'objectif affiché est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Cela ne suffira pas si l'on n'oriente pas correctement les 750 milliards d'euros du plan. Voilà ce que répond Neil Makarov. Il est chargé de l'Europe au sein du réseau Action Climat.
Si on se fixe le bon niveau d'ambition climatique lors de ce sommet européen, c'est-à-dire un niveau qui nous permette de limiter le dérèglement climatique à 1,5 degré, auquel cas il faudra investir énormément d'argent du plan de relance vers la transition écologique. Alors pour la première fois, il semble qu'il y ait un consensus qui est en train de se créer sur un nouvel objectif climatique européen de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Maintenant, ce n'est pas vraiment le niveau d'objectif qui est discuté, c'est comment on y arrive. Et qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider les pays, notamment les plus en retard sur le climat, comme la Pologne, comme la Tchéquie, comme la Grèce par exemple, à accélérer la transition écologique, à sortir du charbon. Et ce qui est important, c'est que l'Europe puisse donner des moyens financiers à ces pays pour aider les travailleurs, notamment du secteur du charbon, à trouver un nouvel emploi, aider également la transition vers les énergies renouvelables, vers la rénovation du bâtiment, et également puisse fixer les bons niveaux de normes pour obliger quelque part aussi les industries dans tous les pays à faire cette transition et à changer de braquet. On pense souvent à l'industrie automobile par exemple. Il faut que l'Union européenne soit en capacité de fixer des standards de CO2 pour les véhicules qui obligent l'industrie automobile à aller vers le véhicule électrique plutôt que de rester dans le véhicule diesel ou essence, qui est aujourd'hui une catastrophe pour le climat et pour la santé des Européens.
Les propos recueillis par Véronique Roberotte. Un accord de libre-échange entre Londres et Singapour, annonce faite ce matin dans le contexte que nous évoquions tout à l'heure, contexte difficile du Brexit pour les Européens. Le Royaume-Uni se rapproche donc de Singapour avec des échanges de 22 milliards de dollars par an. Ce pourrait être un appui important en Asie pour Londres. Partons maintenant en Inde, où l'État très peuplé de l'Uttar Pradesh est parti en guerre contre les mariages interreligieux. Son gouvernement, tenu par un moine hindouiste, a passé un décret il y a 10 jours qui punit de prison la conversion religieuse dans le cadre du mariage. Selon les nationalistes hindous, les musulmans indiens essaieraient de convertir des femmes hindoues. Cela n'a pas été prouvé. Il n'empêche, la police a arrêté déjà de nombreux musulmans en couple avec des hindous, Sébastien Farcy.
Mercredi dernier, la police de l'Uttar Pradesh interrompt la cérémonie de mariage d'un couple hindou et musulman. Samedi, c'est un homme musulman venu enregistrer son mariage avec sa compagne hindoue qui est arrêté, accusé de l'avoir converti de force, ce que la femme elle-même dément. À chaque fois, la police invoque ce nouveau décret qui punit de prison toute personne qui en convertit une autre par le mariage et qui impose un contrôle sévère sur les conversions des hindous. Les nationalistes hindous veulent ainsi stopper ce qu'ils appellent le djihad de l'amour, un prétendu plan initié par les musulmans pour islamiser l'Inde en épousant des femmes hindoues. Un complot qui n'a en fait jamais été prouvé, mais qui devient une nouvelle arme pour harceler les musulmans. Abiya est une jeune poète musulmane de cet état de l'Uttar Pradesh.
L'État nous a retiré notre droit d'aimer librement. Maintenant, je devrais réfléchir 10 000 fois si je peux aimer cette personne, car ce sera si compliqué et dangereux. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons est appelé djihad. C'est comme si les musulmans étaient considérés comme des terroristes jusqu'à preuve du contraire.
Le parti nationaliste hindou du Premier ministre prévoit d'adopter des lois similaires dans 4 autres États qu'il dirige.
C'était notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy. Nous évoquions hier ici même le boycott de footballeurs lors d'un match européen de Ligue des Champions, refus de jouer après des soupçons de racisme de la part d'un arbitre près du terrain. Le match s'est finalement joué hier soir après que les participants ont posé un genou à terre, un signe de protestation contre le racisme. Et in fine, par ailleurs, les Parisiens ont battu les Stambouliotes. La météo en France métropolitaine, des pluies de la Normandie jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central. Ailleurs, les éclaircies seront discrètes ce jeudi. Sous des températures de saison, ce matin il fait 1 degré à Strasbourg, 4 à Paris et à Lyon, 8 degrés à Nice, mais déjà 10 degrés ce matin sous la pluie de Bordeaux. C'est l'heure du